Vous écoutez bien le 89.5 Radio Dio. On est le 30 mai, dernier lundi du mois. Et donc, c'est joie, rage et courage. Au menu de cette émission, on va vous causer de la fameuse violence qui se diffuse un peu partout dans les rues de la ville de Saint-Étienne et d'ailleurs autour du mouvement contre le projet de loi travail. Et on va vous parler aussi de la violence du travail, principalement de la violence du travail. Et donc au menu de cette petite heure d'émission, des sons, des reportages pour questionner ces deux notions. Et on va commencer par un petit montage d'extraits d'infos de l'émission, enfin, de la chaîne Télé7 sur les manifs locales dans le cadre du mouvement contre la loi El Khomri.
L'annonce du 49.3 n'a pas du tout plu aux opposants à la loi du travail. En témoignent ces images prises hier soir devant la préfecture de la Loire, qui a été pris pour cible par les quelques 300 manifestants. De la peinture a même été lancée sur la façade. Des manifestants qui se sont réunis spontanément pour protester contre le passage en force du gouvernement.
En marge de la mobilisation, le centre-ville a été tagué par des opposants à la loi El Khomri. 49.3 écrit en grosses lettres sur des banques, des commerces et même l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Pourtant, les jeunes communistes et la CGT ont mis en place un service d'ordre suite au débordement de jeudi dernier. Mais difficile de contrôler la colère et la détermination de certains manifestants. Le mouvement s'est clairement durci à Saint-Étienne ces dernières semaines.
Et suite à cette dégradation dans le centre-ville stéphanois, sachez que le maire Gaël Perdriot a décidé de porter plainte. Des débordements, effectivement, qui essoufflent le mouvement.
Attention à mettre trop d'huile sur le feu. J'ai été jeune aussi, j'ai manifesté. Quand on est jeune, on a toujours envie d'en découdre. Mais il est important qu'il y ait des régulateurs pour canaliser.
Cela fait donc plus de deux mois que les opposants à la loi du travail défendent dans les rues. Et plus ça va, plus les tensions sont palpables.
Depuis le mois de mars, 350 policiers ont été blessés.
Il y a eu beaucoup de blessés, des agressions gratuites, hein, notamment on a un commandant qui a été violemment pris à partie.
En France, il faut savoir que depuis le début de ces manifestations, il y a eu 350 policiers blessés. À Saint-Étienne, la semaine dernière, il y en a eu 16. Donc on ne peut plus accepter ça. Il faut qu'il y ait une réponse ferme de la justice, ferme de la part de nos autorités. Et que, voilà, face à ça, nous, on demande protection et reconnaissance.
Quelques tables seront encore inscrits sur le mobilier urbain et une banque de la place de l'Hôtel de Ville, où le cortège emmené par l'intersyndicale devait s'arrêter. Mais les jeunes poursuivent jusqu'à la préfecture où un important dispositif de sécurité est en place. Une cinquantaine de jeunes bifurquent alors jusqu'à la place Jacquard en direction de la permanence de la Fédération départementale du PS, rue du Midi, où les policiers leur ont refusé l'accès.
Et pourtant, il y a quand même un affrontement avec les forces de l'ordre.
Je n'ai vu aucun coup porté de la part de la police.
Ça
devrait pas
faire finalement entre les forces de l'ordre et ces jeunes qui manifestent aujourd'hui dans des cortèges.
J'espère que vous avez peur, que vous tremblez dans vos fauteuils. Eh oui, il y a bien des violences à Saint-Étienne. Et elle est parfaitement mise en scène dans les journaux de Télé7. Cette violence, elle est terrible. Elle consiste en des tags sur des mobiliers urbains et des murs. Elle consiste en des œufs de peinture lancés avec une extrême violence et une rage incontrôlée contre des murs de la préfecture. Ah là là, ça tremble, ça tremble. J'espère que vous avez peur. En tout cas, on a bien vu dans ces extraits comment Télé7 instaure et met en scène en fait ce qui serait une violence dans les manifestations. Et on va y réécouter un autre extrait. Alors en fait, c'est un petit montage d'un micro-trottoir qu'ils ont fait à propos des magasins qui sont pris en otage. Mais en fait, on voit que c'est plutôt la police qui les prend en otage. Et puis après, on laissera l'enregistrement couler pour écouter le reportage suivant.
Cela fait donc plus de 2 mois que les opposants à la loi du travail descendent dans les rues et plus ça va, plus les tensions sont palpables. Alors les commerçants du centre-ville stéphanois s'inquiètent de la suite donnée à cette mobilisation. Ils craignent parfois d'autres débordements. Certains ont d'ailleurs préféré baisser leurs rideaux ce jeudi. Cyril Pélissier a récolté quelques témoignages, écoutez-les.
Et ben on a attendu que la manif passe et puis bon, on libérait quand même les clientes aussi hein, parce qu'on les avait pris un petit peu en otage. Hein, et puis bon, les gens ne voulaient pas trop rester toute la journée chez Damar. Hein, et donc bon, ben, on ouvrait vu qu'on a vu que ça se passait bien et que c'était la fin de la manifestation. Donc on a ouvert le rideau. Mais oui, on a baissé sur l'ordre de la police.
On l'a bien compris, cette loi du travail divise encore. Et c'est dans ce contexte que la police nationale lance une campagne de recrutement au niveau national. Près de 5000 gardiens de la paix et plus de 4000 adjoints.
Et ben voilà, on y est. Un recrutement de la police nationale qui fait la une des infos de Télé7. Et oui, bon, ben, on est rassurés. Hein, l'avenir sera radieux pour les contrôleurs de nos vies. Bref, voilà, c'est un petit montage qui a questionné sur la question de la violence, qui du coup revient toujours, la violence qui est toujours forcément d'un point de vue des manifestants. Et du coup, ben, moi j'ai regardé ce que ça veut dire la violence dans le dictionnaire. Et en fait, la violence, c'est contraindre par la force. Donc, déjà, pas l'impression que lancer des œufs contre un mur, c'est contraindre par la force. Tant bien même, contraindre par la force, vers quoi ? Et en fait, il y a un réflexe, quand il y a un sujet comme ça qui revient, qui est redondant, comme la violence des manifestants, et ben en fait, le réflexe, c'est de se questionner sur d'où ça vient. Et du coup là, pourquoi il y a des manifestations ? Et les manifestations, elles sont en réaction à le passage d'une loi sur dite loi de travail ou loi El Khomri sur les conditions du travail. Et du coup, la question c'est quoi ce travail et c'est quoi, est-ce qu'il y aurait de la violence au sein du travail ? Et en fait, du coup, l'émission va porter sur ce sujet, sur la violence du travail, sur ce que ça veut dire travailler et en quoi consiste des violences sur nous, en fait, sur tous les gens qui ont affaire de près ou de loin au travail. Alors, dans cette émission, on va aborder que la question des personnes qui ont un contrat de travail, qui travaillent d'un point de vue, on va dire, légal. Du coup, on va pas aborder toutes les personnes, tous les sans-papiers qui travaillent au black, toutes les personnes qui sont exploitées dans d'autres situations. Et on va pas aborder non plus la situation des chômeurs, parce que, mine de rien, être chômeur, c'est aussi, on fait aussi face à la violence. À la violence du contrôle des institutions, de la pauvreté, etc. Ça pourrait faire le sujet d'une émission, et c'est ça, ce sera certainement le cas dans les prochains mois. Du coup, on va juste aborder la situation de la violence au travail, on va commencer par deux petits témoignages. Un premier témoignage, c'est un ouvrier de chez Peugeot. Et le second, c'est l'ouvrier de chez Peugeot, il bosse à la chaîne, ça date d'il y a quelques années. Et ensuite, c'est des employés d'un call center, donc un espace de réponse au téléphone, etc., de l'entreprise Carglass. Alors voilà, ces deux sons proviennent de documentaires, Attention danger travail, et puis un triptyque de documentaires sur le travail. Bref, on mettra toutes les références sur le site Joie, Rage et Courage. Bon, on va écouter ces deux témoignages.
Simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart et puis de te dire tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis à 5h moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, ben, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, t'arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain, tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. T'as ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. Je fais 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé des mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire, que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant. Je lis un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie. Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire. Mais j'ai plus envie. J'en ai plus le besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais plus, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains. J'ai tellement des grosses mains. Mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau est sans mat, je ne vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je ne vais pas m'arracher ma peau. Je ne veux pas qu'on y touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaie de nous les bouffer, de nous les user. Et là, on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait.
Moi, le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau. Enfin, où je sais pas, j'essaie de... J'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très, très automatique et très répétitif. Donc je mets, entre guillemets, mon cerveau entre parenthèses. Je ne réfléchis pas. J'y vais sans réfléchir. Je travaille sans réfléchir.
Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite, parce qu'on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose.
on arrive pour commencer notre journée de travail, faut qu'on se logue. Et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à une minute près, il y en a certains qui, enfin, certains superviseurs après qui viennent te voir parce que tu as une minute de retard.
Allô madame ? Oui, merci d'avoir patienté. Donc il n'y a pas de souci pour demain.
Tu as un script auquel tu dois coller. En permanence.
Au début, on essaye de le faire, parce qu'on ne connaît pas le temps de s'adapter, etc. C'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas, toutes les 5 minutes, répéter exactement le même speech. Enfin, on devient un robot, on devient fou, enfin, c'est pas possible.
Tu as des phrases, des locutions. Carglass vous remercie de votre appel.
C'est Carglass qui vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente journée.
C'est comme si tu te gommais toi-même de... Et tu te remplaçais par Carla, ça te ramène à ton statut de robot parlant.
Je vous en prie, au revoir.
Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle nous voit pas. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc t'arrives, tu réfléchis pas, tu fais ton boulot, t'attends la fin de ta journée, et une fois que tu sors de la boîte, bah, tu redeviens toi. Enfin, c'est pour ça que moi, je pense, faut, ce genre de travail, il ne faut justement pas s'impliquer pour ne pas souffrir. Parce que si tu commences à t'impliquer émotionnellement en disant que la personne que t'as, enfin, au bout du ligne, elle te parle à toi personnellement, si elle te remercie, c'est toi. Donc à ce moment-là, tu vas être content, tu auras passé une bonne journée. Si elle t'insulte, tu vas pleurer parce que tu te sens offensé. Enfin, tu t'en sors pas, je pense. En traitant 50 ou 70 appels par jour, si tu le prends de manière personnelle, c'est ingérable.
Il y a un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels déchargés et qui traque comme ça la petite bête. Bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration?
Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi?
Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé.
Mm-hmm. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance.
Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer.
J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit.
Ouais.
J'ai été directive auprès du client. Et
donc ça, c'est, enfin, déjà, c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script. Et voilà, enfin, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après, tu négocies avec ton superviseur en disant « Effectivement, j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. » Et ton superviseur va dire « Oui, mais c'est le script. » C'est toujours ça la réponse chez Carla, c'est le script. Il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on te demande de dire.
J'ai juste un petit détail à ajouter, c'est que tu as beaucoup de tics de langage.
Oui.
Et le tic « OK », faut l'effacer.
Le travail n'est plus un service qu'on rend, mais une tâche qu'on exécute. C'est un sentiment de frustration énorme pour les salariés, une des principales causes de démission. Or, le turnover coûte très cher aux employeurs. Formation, adaptation, c'est long et coûteux. Voilà pourquoi la sélection à l'embauche répond à des critères très particuliers. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. Un profil qui n'a rien d'évident. Pour les recruteurs, c'est un travail sans fin.
Chez Carglass, il y a un mot d'ordre, c'est donnant, donnant. On va vous donner un emploi, des conditions de travail meilleure qualité possible, mais il faut aussi que vous respectiez les engagements, les valeurs de l'entreprise et puis l'exigence concernant la relation client.
On demande d'aimer une entreprise qui, au premier bon contraire, est susceptible de te foutre à la porte. On t'oblige en quelque sorte à aimer ta boîte, alors qu'une boîte n'a pas de sentiment. Une boîte, elle ne t'aime pas. Une société anonyme, je veux dire, c'est dans le nom, est anonyme la société, tout le monde est anonyme là-dedans. On veut t'obliger à l'aimer.
Et voilà quelques extraits de ces documentaires. Bon, il y a beaucoup de choses dans ces témoignages, beaucoup de violence hein, et de situations difficiles pour les salariés. Alors on va essayer de reprendre quelques petits points et puis en passant quelques extraits. On va commencer par les violences physiques au travail. Alors bon, effectivement, en France, les situations de santé dans les entreprises évoluent. Effectivement, il n'y a plus les maladies comme on a pu les vivre il y a quelques années dans les mines ou autres, mais il y a d'autres formes de, eh ben de traumatisme, et c'est les TMS, ce qu'ils appellent les TMS, et aussi le stress et les réponses au stress que les salariés trouvent. Donc on va passer un petit extrait sur les TMS, donc les troubles médicaux, je sais plus ce que c'est, squelettique, et l'utilisation de psychotropes au travail. Allez hop.
Que je fasse quelque chose, que je ne fasse rien, c'était là constamment. Et là, j'ai vu que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, j'ai été voir consulter le médecin.
Véronique Muloko est victime de ce mal en pleine explosion, les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France un salarié sur 8. Un mal qui représente 7 millions de journées de travail perdues chaque année et coûte plus de 710 millions d'euros à la sécurité sociale. Ce qui a poussé le ministère du Travail à lancer cette campagne de sensibilisation. L'apparition des troubles musculo-squelettiques ne doit rien au hasard. La course à la productivité et les nouvelles technologies ont transformé la nature même du travail dans nombre de métiers. Le travail d'une caissière consistait à prendre un produit, vérifier son prix, l'enregistrer dans la caisse et le déposer plus loin. Maintenant, les caissières ne font plus qu'un geste, présenter un code-barre devant un rayon laser. C'est 3 fois plus rapide. Mais désormais, une caissière soulève en moyenne 1 tonne par heure. On retrouve le même phénomène à la chaîne ou devant son ordinateur. Le cumul des contraintes de productivité et des contraintes commerciales finit souvent par casser l'individu. Le Bureau international du travail classe la France au 3e rang mondial de la productivité du travail horaire, juste derrière la Norvège et les États-Unis. C'est un exploit qu'on n'affiche pas, puisqu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. N'empêche, ce record de productivité horaire a un coût exorbitant. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. On sait par ailleurs que 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. Notre société l'admet, sans broncher, comme s'il s'agissait du prix à payer pour ne pas perdre la compétition mondiale. Mais faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner ?
Perdre sa vie à force d'essayer de la gagner, ou se faire exploiter pendant quelques heures pour survivre le reste du temps. Bref, des équations et des dilemmes que tout le monde se pose. Et du coup, là, on a bien vu la question de... que l'exigence de rentabilité et d'augmentation de la productivité du fait du patronat et des financeurs, des actionnaires, impose un rythme et une forme du travail qui est souvent une forme de violence et aussi de plus en plus de contraintes sur le corps des ouvriers, mais aussi, on va voir, sur le mental. Car quand le contrainte sur le corps ne suffit pas, on passe à un autre niveau. Le niveau, on va dire, de maximiser les capacités mentales de ses employés, ou les écraser, les anéantir totalement. C'est, ça s'appelle le management. On va écouter des petits extraits de témoignages.
En fait, c'est un nouveau patron qui est embauché par l'entreprise et il me convoque à un premier entretien. On ne se connaissait pas du tout. Donc, je m'installe dans son bureau. La première chose qu'il me dit, donc pardonnez-moi la vulgarité que je vais dire, il me dit « Voilà, donc tu es assis en face de moi, décontracté du fion. Le seul moyen de se débrasser de toi, c'est de tirer une balle dans la tête au parking. » Donc voilà.
Tout de suite, dans la foulée, moi, je me suis fait insulter. Donc, je me suis fait traiter par une des personnes proches de la direction de... Donc je cite, hein, je suis désolé, c'est « tu n'es qu'un gros con ». Et donc moi j'ai demandé des excuses hein, par rapport à ça, et donc la personne a insisté en disant, de toute façon, parce qu'en l'occurrence c'était une femme, si j'étais un mec, je te mettrais mon poing sur la gueule, enfin vous voyez, enfin. Et donc le mois suivant, donc on s'est retrouvé avec une pétition de salariés, pour la plupart connus pour étant proches de la direction.
D'accord.
D'une part ils sont obligés de faire notre travail à notre place, qu'on insulte des gens, qu'on harcèle des gens, enfin je veux dire complètement, enfin quelque chose de complètement fou, puisque s'il y a aujourd'hui des personnes qui sont victimes dans cette entreprise, c'est bien nous. Et en aucun cas, on essaie de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre du bien collectif.
Si on vous dit qu'ils vous disent que vous les gênez dans le travail, c'est que vous travaillez avec eux, non ? Alors,
en fait, oui et non, c'est-à-dire que physiquement, on est proche, donc puisqu'on est sur un open space, donc on travaille côte à côte. Par contre, on n'a aucun lien de travail ensemble.
Parmi ses collègues, il y a des gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui ne nous connaissent même pas, mais qui ont quand même signé une pétition dans laquelle il est marqué que nous les harcelons et que nous ne faisons pas notre travail, ils sont obligés de faire le nôtre. Personnellement, je pense que c'est une pétition téléguidée par la direction. D'ailleurs, certaines confidences de certains collègues nous le prouvent, ont signé parce qu'il fallait signer, soit par peur, soit pour bien se faire voir par la direction, soit pour des raisons personnelles. Voilà.
Et voilà donc encore un exemple assez clair. Et ces témoignages, ils apportent un autre niveau. C'est la question de la tactique de l'isolement. En fait, une stratégie de management, c'est isoler les individus pour éventuellement casser les solidarités et, entre salariés et ouvriers. Et du coup, ben, des liens qui pourraient contrecarrer le pouvoir des décisionnaires. Et cet isolement, eh ben, ça amène à des choses gravissimes comme cette vague de suicide à France Télécom il y a quelque temps. Donc voilà un petit souvenir avec des archives de l'INA datant de septembre 2009. C'est pas si loin que ça.
Un lundi difficile pour ces employés de France Télécom. Ils se retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi du quatrième étage leur collègue âgé de 32 ans.
Je vous dis qu'on est des pions. Si on est des pions, on n'est pas des êtres humains. On n'est absolument pas écoutés, ou du moins entendus. Parce qu'on va vous parler des cellules d'écoute. Oh, certes, elles fonctionnent, elles écoutent. Mais est-ce qu'elles entendent ?
Aujourd'hui, une salariée de 53 ans a été retrouvée inanimée à Metz après avoir avalé des barbituriques. Ses jours ne sont pas en danger. La semaine dernière, c'est cet employé qui tente de se tuer en se plantant un couteau dans le ventre en pleine réunion.
Le geste, il est venu au moment où on m'a précisé qu'apparemment j'étais plus bon à rien et qu'on me refilait parce que j'avais pas mes compétences n'étaient plus retenues.
La direction annonce la mise en place d'un observatoire du stress au sein de l'entreprise. Elle évoque la pression de la concurrence. Mais l'affaire devient politique. L'État, principal actionnaire de France Télécom, décide d'intervenir.
C'est une obligation, c'est un devoir à la fois pour l'entreprise et pour le gouvernement qui, comme vous le dites, est puissamment actionnaire, de se pencher sur cette question. Cela étant, je crois que le suicide est une affaire trop grave, trop personnelle, pour qu'on puisse réduire ce phénomène que l'on constate chez France Télécom à un problème d'organisation d'entreprise.
Pour les syndicats, c'est le management du groupe qui est en cause.
Quand on en arrive à ce point-là où plus de 20 personnes se suicident sur leur lieu de travail, on ne peut pas se contenter de drames personnels.
Et non, on ne peut pas se contenter de drames personnels et justement individualiser encore, on l'a bien vu là dans le propos du ministre de l'époque, et ben c'est on individualise la situation pour ben dépolitiser et isoler encore un peu plus les ouvriers. Du coup on pourrait dire là, et comme certains ont osé le faire, que cet exemple de France Télécom, et ben France Télécom, c'est malheureux, quoi, mais c'est isolé. Eh ben non, pas tant que ça, on entend de plus en plus dans différentes entreprises des situations similaires. Et par exemple, la question de fameux article 2 de la loi El Khomri sur les accords d'entreprise qui priment sur les accords de branche ou le code de travail, et ben ça va amener, en fait, on peut le voir avec cet exemple de France Télécom, et ben des situations d'isolement et de violence et de conditions très compliquées pour les salariés. dans différentes entreprises. Et pour ceux qui doutent encore de la diffusion de ces tactiques de management, on va écouter un petit son trouvé sur Arte Radio. Et c'est un petit son, un petit montage avec des témoignages de la situation à la Poste.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste ?
Le 15 septembre 2011, une de nos collègues s'est jetée du quatrième étage par la fenêtre dans la cour du centre financier de Paris 15.
Cette direction de la Poste, elle voyait bien que des choses ne se passaient pas bien. Il y avait déjà eu d'autres suicides antérieurement qui n'avaient pas été médiatisés. Il y avait eu déjà d'autres alertes. Donc cette direction a pris un certain nombre de mesures.
La première décision qu'a prise la direction suite au suicide, ça a été donc de verrouiller toutes les fenêtres à tous les étages pour éviter un effet boule de neige.
Alors nous, on a tous reçu à la Poste une lettre du directeur Jean-Claude Bailly, donc, disant qu'il était bon, évidemment affligé par le drame, par les suicides et tout ça. Moi, c'est Eric, j'ai 26 ans et je suis facteur en CDI depuis un an. Et que la réponse qu'il mettait en place, c'était qu'il allait mettre une médiatrice sociale, qui n'est évidemment pas vraiment à la hauteur des enjeux, parce qu'à côté de ça, évidemment, ils ne vont pas du tout changer de politique. Il a bien insisté sur le fait que les restructurations, ça continue. Donc il n'y aura pas de pause, voilà, ça va être exactement la même politique, avec bon, un poste de créé de médiatrice sociale, bon, qui est un peu qui est cosmétique.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste ?
Livraison en commerce de proximité, à domicile, sur rendez-vous le soir à Paris, en espace Citissimo, dans le bureau de poste de votre choix.
Quand quelqu'un vient pour dire « ça ne va pas bien, mon travail me fait mal », je schématise bien entendu un petit peu, on lui renvoie... C'est vous qui n'allez pas bien, on va vous orienter vers un psychiatre, nanana, ainsi de suite. Donc cette médicalisation à outrance, ça les enferme dans « c'est moi qui suis responsable de mon mal-être et il n'y a rien à faire ». Dominique Lanoë, je suis le fondateur et le président de DISAS, qui veut dire Intervention Sociale et Alternative Santé-Travail.
En fait, bah, ils ont vraiment imposé les méthodes de management des entreprises privées. C'est-à-dire de plus en plus, il s'agit d'individualiser la gestion du personnel. Donc, ce qui fait que le salarié il se retrouve face à ses encadrants un peu tout seul. Donc, c'est forcément un rapport assez inégal. Et puis, l'encadrant, on lui met la pression pour qu'il fasse du chiffre. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'encadrants, à mon avis, qui n'ont pas trop envie de jouer le jeu. Mais ceux-là, ils prennent une pression beaucoup plus forte. Parce que ça veut dire que la direction leur tombe dessus en leur demandant « Mais pourquoi, voilà, pourquoi vous n'appliquez pas bien les réformes ? Pourquoi ça ne marche pas mieux ?»
Il y a eu des efforts qui ont été faits dans les années 80, 90, de redonner un peu de sens au travail, de le recomposer. Et puis, avec ces réorganisations, il y a des... par exemple, chez eux, ce qui est appelé du pilotage du flux... un émiettement de l'activité qui fait perdre tout sens.
Nous, comme facteurs, on a en gros tous les 18 mois une restructuration qui consiste à supprimer des tournées de facteurs et à répartir le travail entre les facteurs qui restent.
Quand on aide la conscience à se développer, elle se transmet à tous. Et c'est toute la société qui avance. C'est pour cela que la Poste change, pour faire grandir la confiance.
Bah le centre est en restructuration permanente. En termes d'employés, on est à 1390, il y a à peu près 150 emplois qui disparaissent chaque année. Là. Le personnel n'est pas pris en compte dans toutes ces réorganisations, c'est une variable d'ajustement.
On nous a beaucoup dit à la Poste, oui, c'est parce que les salariés sont âgés et qu'ils ne veulent plus changer. Non, c'est pas ça, pas du tout ça la question. La question, c'est que ces salariés-là souhaitent avoir une maîtrise et de comprendre les changements et éventuellement y participer, mais pas à ce que ça soit imposé tel que c'est fait.
Ça va être un boulot de plus en plus robotisé, quoi. Parce que tous les petits temps de convivialité, c'est aussi des temps pour récupérer, pour souffler un peu. C'est ce qui rend le travail jusque-là plutôt agréable. Si on supprime tout ça, on va juste être des machines à distribuer du courrier, quoi.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste ?
À 9 mois de mes 58 ans, je souhaite qu'une chose, c'est de me mettre en retraite de ce monde. Je ne veux plus, je pourrai jamais retourner travailler. Jamais. J'ai été cassée. Il y a deux solutions. Ou je me suicide, ou je me mets en maladie.
Je pense raisonnablement que la deuxième formule
Et voilà, ça c'était René Binamé avec la chanson Tic Tac, d'ailleurs qui a été retrouvée sur le verso d'un tract diffusé lors de manifs ces derniers temps. Bref, voilà, on a pu voir quelques exemples, il pourrait y en avoir tellement, il pourrait y avoir, je crois que tout le monde pourrait raconter ses expériences individuelles ou ses expériences de ses proches. Sur la question de violence au travail, psychologique, physique, sur la détresse qu'on peut avoir, sur des proches qui en souffrent. Dans le témoignage précédent, la question de la médicalisation a été amenée, et puis l'intervenant parlait de que ça individualise la personne, c'est-à-dire que ça le met seul face à sa situation et ça le renferme dans une situation qui est en propre à soi, c'est-à-dire que c'est pas la faute d'une organisation générale, c'est soi qui n'est pas adapté à ce qu'on lui demande de faire, et c'est super culpabilisateur, et aussi ça pousse encore plus à l'isolement. D'autres formes de réactions possibles, c'est les prud'hommes, et donc les prud'hommes, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, c'est assez horrible, et on va voir un petit extrait de ce que c'est les prud'hommes, toujours issu du triptyque de documentaire sur le travail.
Au Conseil des prud'hommes de Nanterre, dans ce tribunal du droit du travail, les conflits et les souffrances s'expriment publiquement avec des mots.
Et ça, c'est mon souci. Qu'est-ce que je dois faire pour faire exécuter ? Parce que je sois payé, c'est évident.
Salariés et employeurs y règlent leurs comptes. C'est violent, pénible, mais révélateur. Depuis 20 ans, le nombre d'affaires a été multiplié par 3. Un salarié sur 4 a passé ou passera un jour la porte de ses conseils pour faire face à 4 juges civils, 2 représentants du patronat, 2 représentants des salariés.
Et donc, les chiffres sont clairs, et de plus en plus, des gens doivent faire appel au prud'homme, sans compter tous ceux qui n'osent pas faire appel au prud'homme. Et c'est compréhensible qu'on essaye de se défendre. Mais après, est-ce que les prud'hommes sont une solution ? Les prud'hommes, c'est aussi un recours toujours à la loi, à quelque chose qui est au-dessus, qui gouvernerait la manière de faire, de penser. Et cette loi, comme on peut le voir en ce moment, elle n'est jamais au service de la population, elle est toujours au service du pouvoir, car elle est écrite et faite pour que le pouvoir continue à s'exercer. Et de plus, les quelques solutions qu'on peut avoir sur le travail, c'est-à-dire ben, la débrouille, les grèves, le sabotage, les embrouilles qui permettent de s'en sortir ou d'alléger sa tâche ou de supporter un peu mieux ses conditions, et ben tout ça à chaque fois c'est souvent en tout cas ben des choses individuelles et en fait à jamais ça ne remet en question et ça n'attaque directement le travail. En fait le travail c'est un organisme, un système d'organisation de la société, c'est le capitalisme, et en fait ben, c'est nécessaire de trouver des solutions, etc. Mais c'est pas la solution, elle sera la vraie solution sera forcément juste à l'attaquer et le détruire définitivement. Et donc pour ça, et ben il y a plusieurs textes, il y a plein de textes, plein de gens qui ont réfléchi sur ces questions du travail. Et du coup, ben, on peut citer la FARG, on peut citer plein de choses qu'on mettra en lien sur le site Joie, Rage et Courage. Mais je vais vous lire quelques extraits d'un texte de Bonanno. Voilà. Bien sûr, pour attaquer la mentalité professionnelle, il faut avoir un projet, donc une identité définie, une conscience de nos actes considérés et vécus comme un jeu. Et le sabotage est un jeu fascinant, mais il ne peut pas être le seul. Il faut disposer d'une panoplie de jeux, variés et souvent contrastés, afin d'éviter que la monotonie de l'un d'eux ou de leurs règles se transforme en un travail ennuyeux et répétitif. Mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui considèrent le refus du travail comme l'acceptation de l'ennui mortel, de la non-activité, qui sont en permanence sur la défensive pour éviter les pièges de ceux qui pourraient les solliciter à faire quelque chose, même si ce n'est pas par nécessité, mais au nom de l'idéal, de l'amour, de l'amitié et de toute autre diablerie capable de nuire à cet état de satisfaction totale. Une situation de ce genre n'a aucun sens. Au contraire, je pense que le refus du travail peut être identifié avant tout au désir de faire ce que l'on aime le plus, transformer la façon qualitative l'activité imposée en activité libre, en action. Mais la condition d'activité libre n'est pas réalisée une fois pour toutes. Nous pouvons sortir de ce dilemme par l'approfondissement de notre propre projet créatif ou en d'autres termes par la réflexion sur ce que nous voulons faire de notre vie et des moyens qu'on y acquiert en ne travaillant pas. Si on veut détruire le travail, il faut construire des parcours d'expérimentation collectifs et individuels qui ne tiennent compte du travail que pour l'exclure ensemble des possibilités du réel. Voilà. Ben, on va passer un morceau qu'on a déjà passé, qui est sur le bonus de l'émission, de la dernière émission, mais qui rentre complètement dans ce thème. C'est Sexy Sushi avec la chanson « Je refuse de travailler ». Et on peut aussi rappeler que donc tout ce qu'on a vu, eh ben, c'est de la violence. Et que par rapport à la violence qu'on vient de voir, qui nous est opposée, eh ben, peut-être qu'on peut y répondre par la violence. Et que cette violence, eh ben, ce n'est pas seulement des œufs de la peinture, et elle peut être plus franche, plus directe. Et en tout cas, elle serait, à mon sens, légitime.
Yeah. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et voilà, l'émission se termine. En tout cas, vous pourrez retrouver les liens vers les documentaires qui sont accessibles aussi sur YouTube ou à la médiathèque. Sur le blog Joie, Rage et Courage, vous pourrez aussi trouver les références des textes, les liens, la playlist et d'autres choses. Bref, n'hésitez pas à aller sur le blog Joie, Rage et Courage.noblogs.org. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous envoyer un mail. clap@riseup.net, clap@riseup.net. Et puis on va faire un petit rendez-vous public, et cette fois-ci on va le tenir. Ce sera mardi prochain à 18h du côté du parc du Puy Couriau, derrière la gare Clapier. Le Puy Couriau, ça sera le sujet de la prochaine émission, et du coup si vous voulez venir discuter de l'émission, des différents thèmes abordés, des questions que ça pose et des envies que ça donne, vous pourrez venir. Donc c'est mardi 7 à 18h sur la partie pelouse derrière la gare Clapier, là où le grillage est souvent arraché, et puis on pourra se retrouver à ce moment là pour discuter. Et puis, d'ici là, rappelons que le 3 juin, il y a 3 personnes qui vont comparaître devant le tribunal. Il y a un rassemblement à 13h30. Et ouais, on va pas se laisser faire. Et puis surtout, on va pas lâcher l'affaire. Rendez-vous en tout cas dans la rue. En attendant nos prochains rendez-vous. Ne soyez pas trop sages. Allez, ciao !